La Barge Russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck. Barge Russe 401, épargne de l'expérience. Donc, suite à une lecture évasive de l'essai Ordre et désordre dans l'économie monde de 2002 sous la direction de Pierre Docquès, une partie vient à traiter des cultures hybrides de maïs, qui est une technique d'amélioration, même une technique d'expropriation. Cette technique assure au sélectionneur le contrôle du fait variétal par la transgénisation de stérilisation de la descendance d'une plante. Alors, cultivés dans un même champ, grains de pollen et ovules se croisent et donnent à l'hybridité du champ une culture qui devient naturelle par le temps. Cependant, rendue hybride par expropriation au début. D'où est réussi à s'en extraire une plante reproductible supérieure. À force dans un même champ, les croisements donnent à cette plante hybride qui s'avère être magnifique, plus belle que les autres, un rendu supérieur. Cependant, la variété hybride reste captive dans un même champ. De par une sorte de consanguinité, on peut dire, car dans un même champ, qui se fera auto-fécond lui-même. Vous comprenez un peu. Donc le champ s'avère être une machine à auto-féconder, le maïs en l'occurrence, qui déprimera la génération suivante et stérilisera en quelque sorte, in fine, le maïs. Donc, à force d'hybridation, d'accolage, ça fera une entité quoi, qui ne sera plus possible de mouvement dans sa constitution quoi. Donc, nous pensons à un rendement plus élevé, forcément. Nous, on n'y connaît rien, moi j'y connais rien, je vous retranscris ce que j'ai compris, ce que j'ai lu. On pense à un rendement plus élevé avec des épis de maïs plus beaux, meilleurs, bah, parce que c'est que des plantes naturelles qui sont auto-fécondées, tout ça c'est purement naturel. Donc une beauté à en mourir, que le sélectionneur du produit, donc le patron un petit peu si on peut dire, pas l'agriculteur hein, au-dessus, le sélectionneur du produit, se fasse du profit. Bah oui, parce que si elles sont belles, les gens c'est ce qu'ils veulent, ils voient un bel épi de maïs, bah ils vont le prendre, alors qu'en fait il n'est pas forcément, même généralement il est moins bon pour la santé. Enfin, ça. Alors on pense qu'il va faire du profit, mais pas que. En réalité, l'expropriation des graines naturelles retire à la plante ses saveurs. Et c'est bien fait, qui n'apporte rien de particulier à l'agriculteur, qui lui, il se lève tous les matins à 3h du mat pour aller faire ses champs, qui se voit sacrifier ses propres intérêts, parce que là je parle de l'agriculteur basique, je veux dire, pas du sélectionneur qui a lui, il a 35 000 champs et puis il se fait plein de blé, hein. C'est pas un businessman dont je vous parle. Donc pour l'agriculteur, il se voit biaisé, mais aussi nous, parce que nous, on n'y peut rien pour aller faire chercher des maïs. On a rien pour faire ça. On écoute ce qu'on nous donne, on se dit tiens, un bel épi de maïs avec un gros épi. Oh, ils ont des gros épis de maïs. Oh, bah tiens, je vais prendre celui-là, j'aurais plus à manger. Mais en fait, non. À côté, t'en avais un qui était pas beau, qui était tout petit, mais tous les grains de maïs étaient bien meilleurs. T'avais, je sais pas, 50 épis de maïs, 50 grains de maïs, mais qui étaient bien meilleurs que les 200 qui étaient sur le gros. Bah ouais. Le mec qui sortira à la fin du repas bien mieux portant que s'il avait pris le gros épi de maïs. Donc j'ai ensuite tenté de rapprocher cette culture hybride au champ humain, cette fois. Car nous aussi, nous sommes captifs. On n'est pas cloisonné, on n'est pas emprisonné, mais on est captif. D'accord? Essayez d'ouvrir les yeux. On est captif, on est obligé de faire des choses. Ouais. On est isolé dans la réalité avec un grand R. On oublie nos singularités, nos petites réalités, dans cette grande réalité, avec un grand R, que j'ai si bien démontré. Il y a le grand cercle de la réalité, et nous, il y a nos tangentes, qui sont nos petites réalités, qui appartiennent à la réalité avec un grand R, mais qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc, on a des droites, ah ouais, à perte de vue. On est des droites sur ce cercle, aux tangentes à ce cercle, mais qui deviennent petit à petit des segments et même des points, si on continue. Mais elles sont en podcast, vous pouvez les écouter. Hein. C'est Tangente et le cercle, et de toute façon, ouais. Bref. Donc, une mondialisation nous a exproprié pour le mieux et le pire, ainsi que le pire et le mieux. On est entre nous, on fait du mimétisme, on est beau, mais on est sans goût, stérilisé de nos singularités. On peut plus rien faire. On n'a plus envie parce que, enfin, et même ça devient même quasiment plus possible avec le haut modernisme qui nous tient par la glotte. Et on a même des frustrations. Ça, on est obligé d'avoir des frustrations qui génèrent des dépressions. Et ouais. Et donc là, tout continue. On continue le gros délire. On va voir tel docteur, tel psychiatre, on va dans tel hôpital. Ben ouais, mais ça c'est que le début. Hein. Enfin, c'est un début. Ou alors, on peut aller dans un champ, comme disait Thoreau, on peut aller se promener dans la nature un quart d'heure, on va se moquer de nous, et dire, mais tu fous rien de tes journées. Bah ouais, mais moi, je me sens bien mieux que toi. Donc, on est tous dans le même champ, à copier, à mimer l'autre, qui ne se sent d'ailleurs pas très bien, qui adule le trois-con. Hein, je répète, le trois-con, c'est consommation, conditionnement et contrôle. Donc là, je vous parle de champs. Moi, je vous disais aller se promener dans la forêt. C'est différent d'un champ où il y a des épis de maïs et puis irrigué de produits chimiques. Donc maintenant, on va s'écouter première ligne de X-Tet. Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, car cet essai que je vous ai mentionné avant, Ordre et désordre dans l'économie monde sous la direction de Pierre Dockès, a été écrit en 2002. Là, on est en 2021, donc 19 ans plus tard, que nous sommes en train d'épargner nos expériences dans le monde via le numérique. Le jeu vidéo Roblox, j'ai appris ça hier, tout comme la série Netflix coréenne qui fait un malheur interdit aux moins de 16 ans, hein, conditionne la radicalisation sur une grande, grande échelle. Apparemment, Roblox, le jeu vidéo, serait un terrain de jeu de l'extrême droite, où ce divertissement, qui s'appelle un jeu vidéo, c'est oui chef, non chef, qui seraient apparemment les seules règles de l'entraînement qu'on puisse dire, oui chef, non chef, pour continuer à faire croire que le contrôle, que de, le fait de croire contrôler un jeu vidéo, son, sa partie dans un jeu vidéo, et qui mène peut-être même à des jeux de massacre, c'est encore, ça va nous permettre de croire qu'on peut contrôler comme ça les gens. Mais ça, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout comme ça qu'on peut contrôler. Je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, c'était il y a presque 100 ans, là. Enfin, 80 ans. Non, non, c'est fini, cette histoire. Maintenant, c'est d'une autre façon qu'on contrôle les gens. C'est plus des pistolets, pam-pam, non, et des lance-flammes. Hein. Non, c'est terminé, ça. Bah, mais bon, il y a des gens qui essaient de continuer à nous faire croire que c'est comme ça que ça marche, pour, afin de nous, de nous diviser. Ben ouais. C'est horrible. On peut dire que c'est horrible. Je le dis, c'est horrible. Roblox est un jeu de construction où on fait ce qu'on veut. On peut faire des villes, bien sûr, des régimes capitalistes, des régimes fascistes, des guerres, des soldats, des armées, ou bien sûr, on peut faire autre chose. On peut organiser, construire des haras pour les chevaux, on peut aussi faire des fermes, etc. Mais on peut aussi faire des trucs de guerre, quoi. C'est principalement l'utilisation qui est donnée. Nous venons d'écouter G9 Obscurantis Order par Oran Vergevaudou. G9 Obscurantis Order de Oran Vergevaudou. Donc, comment la modernité a créé à la fois la possibilité et l'impossibilité à l'abondance? Question. La modernité a créé une liberté à la croissance de la productivité sans précédent et permis une abondance potentielle inimaginable à d'autres époques. All right. La modernité a aussi créé une nouvelle façon d'être au monde. Ça, on y arrive, on est dedans. C'est la modernité qui a créé ça. Le postmodernisme. L'individualisme a des conséquences dans tous les domaines. Donc la modernité, le postmodernisme, a emmené cette face de l'être humain, de l'être humain, qui est l'individualisme. Qui a fait se prospérer, enfin non, comment dire. Oui, ça fait se prospérer, c'est pas mal, c'est cette idée d'individualisme. Qui a des conséquences dans tous les domaines. Donc, aussi longtemps que la longévité de la qualité de vie, et la qualité de vie sont des marchandises, rien ne peut empêcher que la rareté produit par une vision individualiste, parce que des fois ça n'a aucun rapport avec une chose peut être faite en gros que la rareté des soins médicaux s'abolisse. Il n'y a pas de raison qu'elle s'abolisse, la rareté, que ça devienne rare. Tant que la médecine fera des progrès technologiques, il n'y a pas de raison que la rareté s'impose dans ce style de soins médicaux, dans les soins médicaux. Il n'y a pas de limite au désir individuel de soins, sauf la consommation que l'individu devra sacrifier à sa santé. Donc il n'y a pas de raison, hein, tant qu'on donne de l'argent, tant qu'on promet la longévité, l'immortalité n'est pas possible, mais la longévité à l'être vivant, eh bien il donnera de l'argent pour ne pas mourir. Ça, c'est le modernisme. Le postmodernité a fait croire à la vie, que la vie est en notre possession, et possédant, ayant le contrôle de cette vie, il ne faut pas la lâcher. On ne veut pas lâcher le contrôle, tout comme le haut modernisme fait avec nous depuis des centaines d'années. Mais eux, ils sont au courant de ça, je pense. Ils sont intelligents. Eux, ils nous font croire que si on reste en vie plus longtemps, eh bien, on contrôlera des choses. Non, mais ça, ils nous donneront l'illusion de contrôler des choses. Ouais. Au 19e siècle, Goethe, il avait écrit Les souffrances du jeune Werther et du jeune Werther. Et il se suicide à la fin. Bon, c'est une histoire d'amour, hein. Mais Donc, nous sommes les produits d'une histoire et les marchandises d'une culture, ou même de culture. Le produit devenu rare, parce qu'on en consomme, on en a trop consommé, ou il y a eu très peu de production de cette marchandise, même si aujourd'hui ça semble fou, eh bien, le produit devenu rare est la ressource qui s'appelle l'amour. Ça, je suis sûr qu'on puisse pas, ça peut pas être une marchandise. Mais ils vont y arriver. En recourant aux relations impersonnelles du marché pour satisfaire nos besoins matériels, nous économisons nos facultés les plus hautes, qui sont l'affection, la réciprocité, l'obligation personnelle. Avec ça, on oublie. L'effondrement de la communauté peut donc s'attribuer par cette dernière atrophie de l'amour. Ouais, l'amour disparaît. C'est une des raisons aussi. Donc les affects de l'amour deviennent des habitudes et perdent de leur essence première, de ses essences premières, qui peuvent être la réciprocité, la solidarité, l'entraide et les autres vertus, hein, il y en a tellement, qui sont petit à petit remplacées par le marché et le calcul des intérêts égoïstes. Mais ça, c'est remplacé, mais c'est déjà remplacé, en fait. C'est déjà le cas. Est-ce que vous avez déjà vu une union où c'était l'amour? Essentiellement. Non, c'est pas possible. On a forcément besoin l'un de l'autre. Ok. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est même plus besoin, c'est qu'on se sert. C'est peut-être que ça. Après, là, ça a peut-être toujours été. Hein.
Schwartz, tu me copies?
Ouais, tout est sous contrôle.
La barge russe est à 14h.
Ok, Johnny. Du vendredi?
Ouais, et toi?
Le mercredi soir, 9:30. The Russian Fortune.
Who's here to serve you and to complete your desire?
Roger.